Avertissement du rap Grande Culture numéro 18 du 27 août 2021, lu par Isabelle Fréchette. Dans cet avertissement, il est question du syndrome de la mort subite dans le soya, du dépistage des larves matures du vert gris occidental des haricots dans la culture du maïs, de l'état de la situation quant à la chrysomèle du haricot et des considérations pour l'application d'herbicides en pré-récolte du soya. Syndrome de la mort subite dans le soya, cas en Outaouais. La maladie du syndrome de la mort subite a été détectée dans un troisième champ cette année, localisé cette fois-ci en Outaouais. Les deux autres champs recensés en 2021 sont en Montérégie. C'est en 2020 qu'un premier cas de syndrome de la mort subite a été officiellement identifié au Québec, dans un champ au centre du Québec. La prévalence de la maladie semble augmenter, laissant supposer que d'autres régions peuvent être affectées par le syndrome. Les pertes de rendement peuvent s'élever à 30 % si l'infection est sévère. La maladie peut être associée à la présence d'une nématodachyste du soya. Si des symptômes sont observés, il est recommandé de faire analyser les plants pour identifier la maladie. Si jamais la présence du syndrome est confirmée, il serait pertinent de prendre un échantillon de sol pour l'analyse du nématode. Pour en connaître davantage sur les symptômes de la maladie, le dépistage et les stratégies de lutte, consultez l'avertissement numéro 15 du 6 août 2021. Vert gris occidental des haricots, moment idéal pour dépister les larves matures. Trois champs de maïs dans la MRC de Pierre-de-Sorel, en Montérégie-Est, infestés par les larves de vert gris occidental des haricots, ont été rapportés au réseau le 26 août. Un de ces champs est très affecté. Environ 90 % des épis sont endommagés. Ces champs, sur sol sableux, étaient en maïs l'année dernière. Actuellement, il est trop tard pour intervenir avec un insecticide puisque les larves sont protégées par les feuilles des épis. Un dépistage des larves matures dans les champs à risque est cependant utile pour les raisons suivantes. Effectuer une rétroaction quant à la stratégie adoptée au moment de la ponte, c'est-à-dire s'il y a eu un traitement ou une absence de traitement. Déterminer quelle méthode de lutte pourrait être envisagée l'an prochain si les larves sont abondantes. Prioriser la récolte des champs touchés. En effet, la présence de larves au niveau des épis pourrait augmenter les risques de développement de moisissures. Et s'assurer d'établir un bon diagnostic. Les dommages causés par les larves de vert gris occidental des haricots peuvent être confondus avec ceux causés par d'autres larves, d'où l'intérêt de réaliser le dépistage avant que les larves ne s'enfuissent dans le sol pour y passer l'hiver. Les larves de VGOH ont des taches en forme de losange sur le dos et une des caractéristiques propres à cette espèce est la présence de deux bandes foncées en arrière de la tête. Chez la légionnaire d'automne, on peut observer une forme de Y inversée sur la tête. Quant au vert de l'épi, il n'y a pas de bande foncée en arrière de la tête, mais l'espèce est reconnaissable grâce aux petits poils sur le dos. En terminant, la tête de la pyrale du maïs semble dotée d'une carapace dure de couleur variant d'un brun rougeâtre au noir et les larves de cette espèce peuvent également se retrouver dans la tige des plants. En cas de doute, le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC peut procéder à l'identification. Afin d'observer suffisamment de plants, le dépistage des larves de VGOH peut se faire à 10 endroits bien répartis dans le champ sur 10 épis consécutifs par rang. Il est nécessaire de dégager les feuilles entourant les épis afin de bien voir les larves. Les larves se trouvent généralement à l'apex des épis, cachés dans les soies ou en train de s'alimenter des grains. Leur présence peut être repérée grâce aux excréments ou à des trous percés au niveau des feuilles entourant les épis. En consultant l'avertissement en ligne, vous verrez un montage photo montrant la larve mature du vert gris occidental des haricots et celle des autres larves mentionnées dans l'avertissement, c'est-à-dire la légionnaire d'automne, le vert de l'épi et la pyrale du maïs. Présence d'une chenille peu connue dans le soya. La présence de chenilles appartenant à l'espèce Macrosaccus morisella a été signalée dans quelques champs de soya en Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Lanaudière et Mauricie. Ces chenilles mesurent environ 5 mm au dernier stade larvaire et ont le corps vert pâle à blanc. Elles se nourrissent des cellules végétales sur la face inférieure des feuilles, ce qui induit un décollement de l'épiderme se manifestant sous forme de poches blanchâtres de taille variable. Plusieurs galeries peuvent être observées sur une même feuille. À maturité, les chenilles se transforment en chrysalides dans ces galeries et des papillons de 6 à 7 mm émergent après quelques jours. L'insecte semble affecter la photosynthèse des feuilles car une dépigmentation est observée au niveau des galeries, mais probablement pas au point d'affecter le rendement. Aucun insecticide n'est homologué contre cet insecte. Et on vous remercie de partager vos observations auprès de votre responsable régional du RAP afin de documenter l'impact de cet insecte sur la culture. Chrysomèle du haricot, état de la situation. Le RAP Grande Culture suit la chrysomèle du haricot dans 12 champs de soya répartis en Lanaudière et en Montérégie. Les chrysomèles sont encore actives et doivent faire l'objet d'un suivi dans les zones touchées par ce ravageur. Les résultats des dépistages de cette semaine montrent qu'un champ en Montérégie-Ouest, situé à Saint-Jacques-le-Mineur, atteignait 12 % de gousses endommagées, dépassant ainsi un des seuils d'intervention à considérer pour ce ravageur, qui est de 10 % de gousses endommagées. Pour en connaître davantage sur la méthode de dépistage de la chrysomèle du haricot et les seuils économiques d'intervention, consultez l'avertissement numéro 14 du 30 juillet 2021. Il est important, lors du décompte des gousses endommagées, de distinguer les gousses coupées par la chrysomèle de celles ayant avorté, une des caractéristiques du soya, d'autant plus que la sécheresse accentue ce phénomène. Ainsi, les gousses au sol ne présentant aucun dommage ne doivent pas être comptabilisées par les gousses endommagées par l'insecte. Considération pour l'application d'herbicides en pré-récolte du soya. Plusieurs champs de soya ont actuellement des populations élevées de mauvaises herbes pouvant nuire à l'opération de récolte et à la qualité du grain. Dans plusieurs cas, le manque de précipitations en début de saison a limité l'efficacité des herbicides résiduels et diverses mauvaises herbes à émergence plus tardive ont pu se développer après les traitements. L'utilisation d'herbicides en pré-récolte du soya peut s'avérer une solution intéressante pour contrôler certaines mauvaises herbes vivaces comme le laitron des champs et le chardon des champs, ainsi que des mauvaises herbes bisannuelles comme l'armoise bisannuelle. Un traitement peut aussi dessécher les mauvaises herbes annuelles telles que la cétare géante ou le chénopode blanc. Et la culture par le fait même si elle n'est pas tolérante à l'herbicide appliqué. L'application d'un produit homologué en pré-récolte facilite donc le battage du soya et permet de ne pas tacher les grains. Il est important de noter qu'un herbicide appliqué en pré-récolte n'avance pas la maturation des grains et ne sèche pas les grains plus rapidement. Il provoque seulement la mort et le dessèchement des tissus verts. Un tel traitement n'asséchera pas les grains de soya qui seraient encore verts. Donc, l'utilisation d'un herbicide de pré-récolte dans le soya en l'absence de mauvaises herbes problématiques n'est généralement pas justifiée. Avant d'appliquer un herbicide dans du soya destiné à l'alimentation humaine, il est important de vérifier auprès de l'acheteur si de telles applications sont permises. Notons également que le glyphosate n'est pas homologué en pré-récolte sur le soya de semences. Les directives indiquées sur les étiquettes des produits doivent être respectées. Choix de l'herbicide. Le glyphosate, un herbicide systémique, est à privilégier pour les mauvaises herbes vivaces. À cette période de l'année, la translocation du produit vers les racines est accentué, ce qui augmente l'efficacité du produit. Pour assurer l'efficacité du traitement, les mauvaises herbes doivent être en croissance active. Les étiquettes des produits à base de glyphosate mentionnent un délai de 7 jours avant la récolte. Toutefois, afin d'obtenir un dessèchement suffisant, il faut souvent prévoir 10 à 14 jours et parfois plus, selon les conditions météorologiques, la grosseur des mauvaises herbes et les espèces présentes. Les autres herbicides homologués en pré-récolte du soya, tels que le carfentrazone éthyle, un exemple de produit commercial est le AIM-EC, le saflufénacil, exemple l'éragon LQ, et le diquat, exemple réglone-ion, ont une action plus rapide sur les mauvaises herbes. Ces produits n'affectent que les parties vertes directement atteintes par le produit, à l'exception du saflufénacil, qui peut se diffuser dans une certaine mesure vers le haut des plants. Ces herbicides peuvent être utilisés lorsque ce sont principalement des mauvaises herbes annuelles qui sont présentes ou lorsque la récolte est proche et qu'un dessèchement rapide des mauvaises herbes est souhaité. Les délais avant récolte varient de 0 à 7 jours selon le produit. Cependant, pour obtenir l'efficacité souhaitée, il est important de vérifier l'état des mauvaises herbes et bien entendu l'humidité de la culture pour cibler le bon moment de récolte. D'autres aspects doivent être considérés dans le choix des herbicides de pré-récolte, tels que les indices de risque pour la santé et l'environnement, disponibles sur le site Sage Pesticides, et les coûts. De plus, il est important d'effectuer une rotation des groupes d'herbicides afin de diminuer les risques de développement de résistance des mauvaises herbes. Par exemple, certains herbicides de pré-récolte font partie du groupe 14, un groupe d'herbicides qui peut aussi être utilisé dans le soya en début de saison. Moment d'application. Il est très important que la maturité physiologique du soya soit atteinte avant de pulvériser un herbicide en pré-récolte. Un plant de soya atteint sa maturité physiologique lorsque les grains remplissent les gousses et qu'il n'y a plus de translocation de nutriments de la plante vers les grains, c'est-à-dire entre les stades R7 et R8. Il n'est pas toujours évident de cerner la maturité physiologique pour une culture indéterminée comme le soya. Une bonne méthode consiste à vérifier, dans le tiers supérieur des plants, si les grains sont jaunes et détachés de la membrane de la gousse. Le champ n'étant pas toujours uniforme, si des zones moins matures sont présentes, le traitement devra être retardé jusqu'à ce que ces zones aient atteint la maturité physiologique. La présence de grains non matures lors du traitement comporte un risque de perte de rendement et de se retrouver avec des résidus de produits dans le grain. De plus, il est important de consulter les étiquettes concernant les stades plus précis du soya à respecter pour l'application. Par exemple, l'étiquette du Roundup Weathermax à base de glyphosate indique que la teneur en eau du grain doit être de 30 % ou moins, que les tiges doivent être de verte à brune et que 80 à 90 % des feuilles doivent être tombées. Une autre solution qui permet le dessèchement des mauvaises herbes avant la récolte consiste à attendre les premières gelées d'automne. Cependant, cela implique que la récolte soit faite plus tard en saison dans des conditions météorologiques qui pourraient s'avérer défavorables au séchage des grains au champ. De plus, si des mauvaises herbes vivaces sont présentes, il faudra prévoir un moyen de lutte efficace en prévision de la prochaine saison. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter ou contacter le secrétariat du RAP.